France Inter.
Aujourd'hui, ou moi, l'inconnu venu de l'espace, raconté par...
Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a des milliards d'années, quelque part, dans un système stellaire que nous ne connaîtrons sans doute jamais, un fragment de roche et de glace s'est détaché d'un monde en formation, un éclat minuscule arraché par une collision, projeté hors de son berceau, une poussière à l'échelle de la Voie lactée. Propulsé dans le noir interstellaire, il a erré d'étoile en étoile, glissant dans le vide à des vitesses vertigineuses pendant des dizaines de millions d'années. Un voyage dont nous n'aurions jamais entendu parler s'il n'avait par hasard croisé notre chemin. Le 19 octobre 2017, au sommet d'un volcan hawaïen, un télescope détecte un point de lumière qui ne devrait pas être là, un point minuscule, fugitif, presque effacé dans la pluie de photons qui bombardent en continu les capteurs. L'objet est étrange, il file trop vite et sa trajectoire ne ressemble à rien de connu. Quelques heures plus tard, les calculs tombent, son orbite n'est pas courbe mais ouverte, hyperbolique, il ne tourne pas autour du Soleil, il le traverse, il vient d'ailleurs, c'est le premier visiteur interstellaire jamais observé. On le baptise Oumuamua, le messager venu de loin en hawaïen. Mais l'objet apporte avec lui plus d'énigmes que de réponses. Ces variations de luminosité montrent une forme extrême, allongée comme un cigare selon certains, plate comme un galet pour d'autres. Les télescopes du monde entier se braquent alors sur cet intrus. Ils n'y voient qu'un reflet rougeâtre, une surface sombre polie par des millions d'années de radiation interstellaire. Et puis lentement, Oumuamua s'évanouit en repartant vers le vide sans un regard en arrière. Pendant quelques semaines, l'humanité a donc observé un voyageur venu d'un autre système stellaire qui n'avait pas choisi de nous rencontrer et qui n'a laissé aucune trace, et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
À cette époque, le 19 octobre 2017, j'étais à un meeting de la Société américaine d'astronomie. Comme chaque matin, avant de me rendre aux conférences, dans ma chambre d'hôtel, je passais en revue les données recueillies pendant la nuit. J'ai appelé deux collègues, Marco Micheli et Richard Wainscott, pour leur demander leur avis. Ça a fait tilt. Cet objet n'appartenait pas à notre système solaire. Sa vitesse était trop grande pour le rendre captif de la gravité du Soleil. Il venait donc de l'espace interstellaire. Il était le premier objet interstellaire détecté dans l'histoire de l'astronomie.
La voix de l'astronome Robert Véric. Patrick Michel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex des studios ici Azur à Nice, vous qui êtes astrophysicien donc à l'Observatoire de la Côte d'Azur et qui avez été le conseiller scientifique du documentaire dont on vient d'entendre un extrait, ou moi, l'inconnu venu de l'espace de Jérôme Ségur et Bernard Mathieu qui sera diffusé ce soir sur France 5, c'est à 21h, dans la case Science Grand Format. Ce film revient donc, Patrick Michel, sur toute l'épopée qui entoure ce drôle d'objet. Est-ce que d'abord vous vous souvenez de ce que vous êtes dit lorsque vous avez pris connaissance de la découverte d'Oumuamua, donc
oui,
en 2017.
Absolument, en 2017, bah oui, c'était extraordinaire. C'était la première fois qu'on avait un objet qui nous rendait visite temporairement. Vous savez, moi je travaille sur les petits corps du système solaire, ouais. Les astéroïdes en particulier entre Mars et Jupiter et ceux qui croisent la trajectoire de la Terre. Et je sais bien que c'est déjà fascinant d'essayer de les comprendre, ainsi que les comètes qui sont un petit peu plus loin. Et là, pour la première fois, on avait un petit objet d'une taille similaire à un astéroïde, mais comme vous l'avez dit, qui est sur une orbite ouverte, c'est-à-dire qu'il ne fait que passer d'ailleurs dans le système solaire à très grande vitesse pour repartir. Et ça, ben, pour moi, c'était assez fascinant de me dire qu'on avait aussi des corps comme ça qui pouvaient nous rendre visite, même si c'est... On peut aussi s'y attendre, mais quand c'est la première fois, c'est assez génial.
Ouais. Comment Oumuamua donc a été découvert exactement en 2017?
Alors, il a été découvert par le télescope Pan-STARR, qui est situé sur la magnifique île de Maui, Hawaï, et qui, en partie, se consacre aussi à la découverte des astéroïdes géocroiseurs, donc qui croisent la trajectoire de la Terre. Et en fait, on les observe grâce au fait qu'ils se déplacent assez rapidement sur la sphère céleste par rapport aux étoiles, et donc avec le défi qui consiste au fait qu'en fait ils ne font que réfléchir à la lumière du soleil, ils sont petits donc ils sont faiblement lumineux, donc c'est ça la difficulté, mais comme ils se déplacent par rapport aux étoiles, c'est comme ça qu'on arrive à les détecter. Et en fait ils ont revu leurs algorithmes pour voir des objets qui se déplacent plus rapidement, et là boum, eh bien, ils ont pu détecter cet objet-là qui, au départ, la première observation ne disait pas qu'il était nécessairement interstellaire, mais ils ont retrouvé des observations de jours précédents, et en reliant l'ensemble de ces observations, d'où l'important de suivre les objets dans le temps, eh bien, ils ont pu constater que la trajectoire n'était pas liée au système solaire et que donc c'était effectivement le premier objet interstellaire.
Donc, dès les premières analyses, on a compris que cet objet était totalement différent de tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on connaissait.
Voilà, en termes de trajectoire au moins. Puis ensuite, ouais, très vite, il y a eu des observations qui ont montré que sa luminosité variait beaucoup et rapidement dans le temps. Alors, si un objet est sphérique, comme un ballon, sa luminosité ne va pas varier, mais s'il y a une grande variation, ça veut dire que quand il nous montre son axe le plus long, il brille beaucoup, et quand il nous montre la partie qui est plus petite, il brille moins. Et donc, ça voulait dire qu'il devait avoir une forme non sphérique. Et en l'occurrence, on a trouvé qu'il avait une forme très, très, très bizarre, comme une sorte de cigare au départ, avec une longueur 10 fois plus grande que sa largeur. Et ça, c'était déjà le premier étonnement que nous avons eu.
Alors, quand on tombe, Patrick Michel, sur le premier objet interstellaire jamais observé, comment la communauté scientifique s'organise justement ? Est-ce qu'il y a une mobilisation générale pour essayer de converger sur les observations et les données ?
Alors, à l'époque, pas encore. Oui, bien sûr, on a tous été fascinés et puis tout le monde s'y est mis, mais j'allais dire au départ un petit peu de façon indépendante. Il y a ceux qui s'intéressent aux trajectoires, ceux qui s'intéressent à la composition. Et ensuite, petit à petit, on publie, on échange, etc. Mais c'est fait de façon, j'allais dire, naturelle. Depuis, on en parlera probablement, on a découvert deux autres objets interstellaires, en particulier le dernier qui s'appelle 3I Atlas, qui actuellement nous rend visite. Oui. Et là, c'est absolument magnifique, parce qu'on s'aperçoit des énormes progrès qu'on a fait pour s'organiser de façon internationale, pour mener des campagnes, et inclure d'ailleurs les amateurs, qui nous aident beaucoup, et arriver à pointer les télescopes sur un même objet de façon organisée, non seulement depuis la Terre, mais aussi depuis l'espace, puisque des tas de missions spatiales ont pointé un objet alors que leurs instruments ne sont pas faits pour ça. Donc à l'époque de Oumuamua en 2017, on commençait un petit peu à s'organiser. Donc c'est comme ça qu'on a pu être assez rapide pour l'observer, parce que c'est un objet qui, quand on l'a découvert, était en train de repartir malheureusement.
C'est ça. Oui, oui.
C'est comme si on vous amène un bon gâteau et puis il vous part de la bouche.
Sous le nez.
Voilà, vous pouvez rien faire.
Combien de temps il a mis pour traverser le système solaire ?
Bon, alors on découvert en, c'était fin 2017 et on a pu l'observer jusque quelques mois en 2018, donc ça a été assez rapide.
Ouais. Vous dites souvent que la recherche est une enquête policière, Patrick Michel, donc à partir de quels indices finalement les scientifiques là ont commencé à établir un portrait robot d'Oumuamua ?
Alors en fait, c'est quand on a commencé à avoir une idée de sa forme. Alors il faut savoir que ces objets-là, c'est un énorme défi d'en obtenir des informations, parce que, et on le voit d'ailleurs pour les objets du système solaire, comme les astéroïdes ou les comètes, pour vraiment pouvoir avoir la certitude de leur composition, de leur forme, de leurs caractéristiques, eh bien il faut leur rendre visite en fait. Et depuis la Terre, heureusement, on peut avoir quand même quelques informations, et d'ailleurs faire des statistiques quand on a un grand nombre d'objets, mais quand on n'en a qu'un seul, c'est très 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 difficile de pouvoir faire un portrait très fiable. Et c'est ça le problème, c'est que les portraits qu'on a nous donnent des informations, mais qu'on peut interpréter un petit peu comme on veut, et le rôle de scientifique, c'est de pouvoir essayer d'élaborer un portrait à partir d'informations sommaires qu'on puisse soit vérifier, soit réfuter, sans aller dans l'imaginaire. Et là, les premières données de forme nous donnaient un objet plutôt de forme presque, j'allais dire, cylindrique ou de cigare 10 fois plus long que large. Mmh. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que non, ça serait plutôt une sorte de crêpe très fine, qui d'ailleurs n'est pas moins bizarre que ça. Et ensuite, on a commencé à avoir des couleurs, c'est-à-dire dans quelle longueur d'onde il renvoie la lumière. Il s'attend plutôt vers le rouge, oui. Ce qui est similaire, c'est identique à ce que nous renvoie la lumière de comètes. Au-delà de Neptune, par exemple. Donc, on commençait à se dire, ben voilà, là, on a un objet qui ressemble plutôt à une comète. Donc, ça, c'est intéressant. Mais, on a aussi vu que sa trajectoire, eh bien, qui est soumise aux perturbations des planètes, hein, l'attraction gravitationnelle des planètes, normalement, nous permet d'expliquer la trajectoire des objets. Mais quand ils ont un dégazage comme les comètes, c'est-à-dire qu'ils expulsent de la matière, de la poussière et du gaz, ça crée une petite propulsion supplémentaire qui fait que elles ne sont pas simplement, la trajectoire ne peut être simplement expliquée que par la perturbation des planètes. Le problème du Muamua, c'est qu'il avait effectivement cette caractéristique d'une trajectoire qui nécessite une petite propulsion supplémentaire par rapport à l'attraction des planètes, sauf que, contrairement aux comètes, on ne voyait pas de signe d'activité. On n'a pas, comme une comète, ce spectacle qu'on voit même à l'œil nu, hein, sur la sphère céleste, cette atmosphère entourant un noyau et puis une queue qui peut s'étaler sur des dizaines de milliers de kilomètres qui est due à l'expulsion de la poussière quand la comète passe près du Soleil. Et on n'avait pas ça avec Oumuamua. Donc ça, c'était un premier mystère.
Alors, il y en a d'autres, des mystères sur la nature même de l'objet d'ailleurs, hein, comète, astéroïde, certaines hypothèses plus spectaculaires d'ailleurs ont même évoqué un objet artificiel. On va écouter l'astrophysicien Avi Loeb à ce sujet.
Je dis qu'il s'agit du tout premier objet interstellaire. Un objet qui vient de l'extérieur du système solaire, que nous avons vu près de la Terre. Il ne ressemble en rien aux astéroïdes et aux comètes que nous avons déjà observé dans le système solaire. Il a l'air brillant et assez inhabituel. Nous pensons donc qu'il a peut-être été fabriqué par une civilisation extraterrestre. Il s'agit peut-être d'un vaisseau spatial ou d'une sonde. Nous devons mettre cette possibilité sur la table.
Voilà, toujours extrait du documentaire que vous pourrez voir ce soir sur France 5, l'astrophysicien Avi Loeb du département d'astronomie de l'université d'Harvard aux États-Unis, qui n'y va pas par quatre chemins, Patrick Michel, puisqu'il parle, lui, de vaisseaux extraterrestres. Comment ça a été reçu par la communauté scientifique, ça ?
Alors, je dois dire que ça nous a un peu énervés.
Oui.
Non pas parce qu'on est fermé à cette hypothèse, au contraire, imaginez, on cherche la vie ailleurs, on met beaucoup de budget dedans, on fait vraiment tous les efforts possibles. Si elle pouvait venir à nous, ça serait génial. Oui. On aurait vraiment une excitation totale. Sauf qu'en fait, avant de recourir à cette hypothèse, nous, les scientifiques, on essaie d'abord de voir si un scénario naturel peut expliquer ce que l'on voit. Et c'est pas parce que on a des bizarreries que tout de suite on doit avoir recours à quelque chose d'artificiel. Vous savez, même les comètes de notre système solaire, elles ont leur propre bizarrerie. Ces petits corps ont chacun leur propre histoire, donc elles nous présentent une grande diversité. Et même pour ces comètes-là, on a encore des tas de choses à comprendre. C'est pourquoi on a encore des projets pour aller leur rendre visite. Alors rendez-vous compte, pour un objet qui a une histoire complètement différente de n'importe quel corps du système solaire, puisque, d'après ce que l'on pense, des objets qui nous rendent visite sont nécessairement extraits d'un autre système planétaire, il faut bien qu'ils naissent quelque part, et puis ensuite qu'ils traversent le milieu interstellaire pendant des millions, voire des milliards d'années. Donc, nécessairement, leurs conditions de formation et l'histoire qu'ils ont vécue en allant dans le milieu interstellaire pendant des millions ou des milliards d'années, eh bien, fait qu'elles ont des propriétés qui sont nécessairement différentes des comètes ou des astéroïdes classiques que nous connaissons, encore que, comme je vous ai dit, on a encore beaucoup de choses à comprendre, même sur les objets classiques. Donc nous, on ne s'arrête pas aux premières bizarreries pour tout de suite dire « Ah, mais on ne comprend pas, donc c'est un
extraterrestre,
artificiel. » D'autre part, vous savez, hein, comme le disait Carl Sagan, une découverte extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Donc il faut pouvoir, quand on prétend ça, soit en apporter la preuve, soit qu'on puisse aussi réfuter cette hypothèse. Sinon, c'est trop facile. Moi, je pourrais vous dire que c'est une vache pleine de méthane et qui dégage du méthane qu'on voit pas, et c'est ça qui donne l'accélération. Et vous pourrez pas me prouver le contraire.
Ouais.
Mais non, mais ça, la science, c'est pas ça, justement.
Alors, on va voir justement ce qui fait à peu près consensus autour d'Oumuamua dans un instant, et puis vous répondrez également aux questions, aux messages, Patrick Michel, qui arrive pour vous sur la page de l'Atéro Carré. À tout de suite.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Ici à Pan-STARRS, notre mission consiste à trouver des objets proches de la Terre que nous appelons NEO, qui sont des astéroïdes qui vont approcher très près de l'orbite de la Terre et risquent de la percuter. Pour empêcher ça, nous devons les détecter tôt. Pour ce faire, nous scrutons le ciel tout entier régulièrement et nous repérons les déplacements. Nous disposons d'un large champ de vision, ce qui nous permet de faire ça plus rapidement que les autres télescopes qui ne sont pas optimisés pour ce genre de travail.
La voix de l'astronome Angela Schulz du Pan-STARRS, donc à Hawaï. Patrick Michel, vous êtes avec nous depuis l'Observatoire de la Côte d'Azur, enfin depuis les studios d'ICI Azur. Et on s'intéresse donc à Oumuamua, l'inconnu venu de l'espace. Ce sera un documentaire à découvrir ce soir sur France 5 à 21h dans Science Grand Format. Alors, la nature d'Oumuamua, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, 8 ans après donc, la découverte de cet objet ?
Eh bien, on en sait ce qu'on a essayé de déterminer à l'époque, parce que maintenant qu'il est parti très loin, on a malheureusement plus de données.
Ouais.
Et alors, il y a plusieurs possibilités pour expliquer justement le fait que sa trajectoire ne suive pas celle attendue sur la base des perturbations seulement dues aux planètes. Et l'une d'entre elles, alors il y en a plusieurs, l'une d'entre elles serait qu'en fait, quand un objet et dans le milieu interstellaire est soumis aux rayons cosmiques. Vous savez, dans le milieu interstellaire, il y a des particules très énergétiques qui tapent sur la surface d'un tel objet. Eh bien, ça peut casser les molécules d'eau. Et donc, et l'hydrogène peut se retrouver piégé dans l'intérieur ou la sous-surface d'un objet qui traverse le système interstellaire, de telle sorte que quand il arrive dans le système solaire, eh bien, cet hydrogène peut du coup être libéré du fait de la chaleur du soleil et produire cette petite propulsion supplémentaire qui, pour le coup, n'est pas détectable et n'est pas visible, contrairement à, par exemple, la glace d'eau qui pourrait sublimer.
Donc, ça dit quoi de l'objet en lui-même ?
Alors, c'est difficile à dire. En fait, c'est ça. C'est ça qui est très intéressant, en fait. Pourquoi ces objets, moi, me fascinent ? C'est parce que on ne pourra jamais aller voir un autre système planétaire. Hein. Depuis la première découverte d'une exoplanète par Michel Mayor et Didier Queloz en 1995, eh bien, on a découvert plus de 5000 planètes autour d'autres étoiles. Donc, on a plein de systèmes solaires partout. Du système planétaire, pardon. Par contre, on ne pourra jamais y aller, parce qu'on est très 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 loin. L'étoile la plus proche de nous, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour y aller avec nos modes de propulsion actuels. Donc là, on a une chance extraordinaire, c'est que de temps en temps, on a un objet qui est expulsé d'un de ces systèmes, qui arrive vers nous. Et le grand défi, c'est de savoir ce qu'ils nous en disent. Et justement, selon que ce que l'on voit est dû à de l'hydrogène, ou alors, dans le documentaire d'ailleurs, une autre hypothèse évoquée, c'est que ça serait de la glace d'azote, comme on en trouve sur Pluton, et que ça serait justement une de ces exoplanètes riches en glace d'azote qui viendrait dans le système solaire et qui, quand l'azote dégaze, ça ne se voit pas non plus et ça produit cette propulsion.
Donc on a plusieurs possibilités, planète extrasolaire.
Exactement, donc selon les possibilités, ça nous raconte quelque chose sur la façon dont ces objets sont formés et éjectés de ces systèmes planétaires. Nous-mêmes, le système solaire, les comètes que nous avons, et en particulier celles qui sont dans ce que l'on appelle le nuage de Oort, qui est à 20 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Il y a une espèce de sphère remplie de corps glacés à 20 000 fois la distance Terre-Soleil, qui est en fait le résultat d'expulsion de matière glacée lorsque les planètes ont un petit peu bougé dans les phases primordiales du système solaire. Donc en fait, on a réussi, grâce à cette constatation, à faire nous-mêmes, à raconter nous-mêmes une histoire de notre système solaire qui nous dit que les planètes telles qu'on les voit maintenant n'ont pas été formées là où elles sont tranquillement. Et on voudrait savoir s'il se passe la même chose dans les autres systèmes planétaires. On essaie de les comprendre. Alors ça, c'est difficile. Et donc, quand on a des objets qui viennent vers nous, qui sont expulsés de ces systèmes, eh bien, on essaie d'en tirer un maximum d'informations pour savoir si les mêmes processus se passent dans les systèmes planétaires, dans ces systèmes planétaires, ou si des choses différentes s'y passent qui nous racontent une autre histoire. Donc c'est un petit peu ça le challenge, et c'est la chance qu'on a d'avoir de tels objets qui viennent vers nous, mais bien sûr avec la difficulté que ils sont tout petits, ils émettent faiblement de la lumière, quand ils ont une activité cométaire, tout ce gaz et cette poussière éjectée nous cachent des informations sur le noyau solide. Donc c'est vraiment un défi très grand, mais qui est tellement excitant et qui peut nous apprendre tellement que c'est pourquoi on essaie de pousser au maximum ce qu'on peut savoir.
Pour répondre à ma question, il n'y a pas vraiment de réponse qui fasse consensus aujourd'hui sur la nature de l'objet ?
Alors, si, qui fasse consensus, ce qui fait consensus, c'est que c'est un objet naturel.
Oui, certes.
Voilà. Okay. Bah, c'est déjà ça. Hein,
c'est déjà ça, oui. Okay.
Comme vous l'avez dit, il y a quand même quelqu'un qui fait beaucoup de bruit et qui persiste avec tous les autres objets interstellaires, sans aucune, mais alors vraiment aucune raison scientifique. Hein, parce que scientifiquement, tout ce que l'on observe, on n'a pas détecté des choses qu'on ne connaît pas. La seule chose, c'est que on a une abondance parfois plus grande, par exemple, de dioxyde de carbone dans le cas de la comète interstellaire qui nous rend visite en ce moment, mais c'est
alors qu'est-ce qui fait consensus ? Vous allez répondre à ma question, Patrick.
Voilà,
je ne vous lâcherai pas avant que vous ayez répondu.
Absolument. Hein. Ben, ce qui fait consensus, c'est que c'est un objet naturel qui provient d'un autre système planétaire et qui donc a, disons, des caractéristiques de composition qui semblent correspondre aux comètes que nous connaissons.
D'accord.
Mais dont le mode de propulsion entre guillemets, qui l'accélère un peu par rapport aux perturbations des planètes, est encore soumis à... Ben malheureusement, on ne pourra pas le vérifier, mais on a plusieurs scénarios pour expliquer cette propulsion-là. Mais ces scénarios sont tous plausibles. Donc voilà, on en est là. On ne pourra pas trancher. C'est pourquoi on est très content que d'autres objets interstellaires nous rendent visite. Parce que vous savez, faire une statistique avec un objet, c'est quand même compliqué.
Ouais, c'est vrai.
Et la raison pour laquelle on a pu mieux comprendre les comètes et les astéroïdes, c'est parce que même si à chaque fois on a des informations qui sont partielles, le nombre fait qu'à un moment donné, on se met un petit peu à tout lier ensemble et à en faire une compréhension globale. Donc c'est pourquoi on a une chance énorme, c'est qu'un télescope qui est au Chili, qui s'appelle Vera Rubin, est maintenant en action. C'est un télescope magnifique, enfin incroyable. Dans la première nuit, il a découvert 2100 astéroïdes, rendez-vous compte.
Ouais, depuis
donc,
cette année.
Coup,
hein,
voilà, depuis cette année. C'est au mois de juin qu'il a commencé à observer. Et on espère, on compte beaucoup sur lui pour augmenter le nombre de détections de ces objets. Et donc de pouvoir mieux les comprendre et de pouvoir affiner nos scénarios.
Allez, on va écouter un nouvel extrait du documentaire Au moment où l'inconnu venu de l'espace, avec cette fois-ci l'astrophysicien Alan Jackson du Maryland.
So what we were hunting for was...
Nous cherchions une substance qui pourrait expliquer pourquoi Oumuamua avait une légère poussée qui l'éloignait du Soleil. Nous avons fait des simulations mathématiques fondées sur des glaces, différentes substances gelées, pour trouver celle qui pourrait être à l'origine de cette petite poussée sans produire une queue détectable.
Voilà, c'est devenu un cas d'école, hein, Patrick Michel, finalement, Oumuamua, pour les scientifiques et les astrophysiciens.
Oui, et justement, ce que je trouve très bien dans le documentaire, c'est que d'abord, il montre ce qu'est la démarche scientifique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaie d'expliquer des bizarreries, quels sont le genre d'expériences qu'on fait pour essayer de voir si on arrive à reproduire ce que l'on observe. Et surtout aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on montre bien le caractère multidisciplinaire de nos recherches. C'est-à-dire que quand on a un cas comme ça, et d'ailleurs dans toutes les explorations qu'on fait, dans les missions spatiales que l'on mène actuellement, on met en œuvre et on met en jeu différentes cultures, parce que d'abord, culture même humaine, hein, j'allais dire, travailler avec les Japonais, avec les Américains, les Européens, etc., tous ensemble, et c'est très excitant d'arriver à se comprendre, parce qu'on a chacun notre mode de travail, nos mêmes modes de communication, et puis aussi différentes expertises, parce que vous avez besoin de gens qui savent calculer des trajectoires, de gens qui font de la chimie, parce que vous pouvez avoir un scénario, moi je pourrais venir en disant oui, mais c'est de l'azote glacé, et, oui, mais attendez, le chimiste, va vous dire, oui, mais attendez, l'azote glacé, ça se comporte comme ça. Donc, voilà, on est dans un monde qui est extrêmement complexe, on est chacun très spécialisé.
Est-ce que ça bouscule beaucoup, d'ailleurs, les habitudes des chercheurs en tant que scientifique ? Est-ce que, Oumuamua, par exemple, vous a obligé à interroger, d'une certaine manière, vos propres réflexes de chercheurs ?
Ah, il faut toujours les interroger. Et c'est effectivement, Oumuamua est un exemple, mais en tout cas, moi, personnellement, J'interroge toujours la façon dont je travaille et mes hypothèses, parce qu'on peut avoir, comme on dit vulgairement, le nez dans le guidon, c'est-à-dire avoir, on peut être biaisé parce qu'on a tellement l'habitude de certaines choses. C'est pourquoi d'ailleurs, vous savez, quand quelqu'un vient évoquer un vaisseau artificiel, ça me dérange pas du tout. C'est au contraire, c'est bien, ça nous pousse à trouver des scénarios naturels. Ça, c'est pas un problème. Après, rester sur cette hypothèse quand elle a plus lieu d'être, ça, c'est le problème. Mais c'est bien de toujours avoir un regard neuf. Pour ça, on dit la vérité vient toujours de la bouche des enfants, parce qu'ils ont ce regard neuf que nous, en vieillissant, eh bien, on perd un peu. Donc, c'est important de le garder. Et où moi, c'était vraiment un cas d'école pour ça, parce que, ben, évidemment, ils nous bousculaient. C'était le premier objet non lié au système solaire que l'on observait et qui en plus nous montrait des caractéristiques qui n'étaient pas celles qu'on attendait nécessairement au départ.
Et depuis Oumuamua, donc depuis 2017, de nouveaux objets interstellaires ont été repérés, deux en l'occurrence. Il y en a un en ce moment qui intéresse beaucoup les scientifiques, c'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis vous répondrez également, Patrick Michel, aux questions pour vous qui arrivent sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Cette nuit, ils n'auront Dieu que pour lui. Tous les télescopes seront braqués sur l'astéroïde Apophis, 270 mètres, 27 millions de tonnes de minerai de fer qui foncent à 46 000 km/h. Rien à craindre pour cette fois-ci. Apophis passera à 14 millions de kilomètres de nous, un cinquième de la distance Terre-Mars.
Voilà, avec cet extrait de France 3 en 2013 autour d'un astéroïde qui s'appelle Apophis et qui va frôler la Terre. Patrick Michel, vous qui êtes avec nous depuis ici, Azur, astrophysicien donc à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ça, c'est un objet qui intéresse beaucoup les scientifiques et vous en particulier, Apophis.
Ah oui, absolument. C'est un objet qui est vraiment très très intéressant, surtout que il va nous offrir un spectacle magnifique qui, j'espère, restera dans la mémoire collective, puisque le vendredi 13, alors quand on a dit vendredi 13, ça fait peur, ouais. Avril 2029, il passera à 32 000 km de la Terre, c'est-à-dire à moins d'un dixième de la distance de la Terre à la Lune, à l'intérieur de l'orbite des satellites géostationnaires que nous envoyons, et faisant entre 300 et 400 mètres de diamètre. Très bien, depuis l'Europe, donc depuis Paris, bon, Nice, il fait en général, il y a moins de nuages, encore plus, et l'Afrique, eh bien, on verra sa lumière à l'œil nu. Alors, ça sera une toute petite lumière qui se déplace sur la sphère céleste, mais 2 milliards de personnes au moins verront ce spectacle. Et d'ailleurs, je voudrais insister là-dessus, c'est le cas d'ailleurs pour ces objets interstellaires sur lesquels les gens braquent les télescopes, et le rôle des amateurs est essentiel. D'ailleurs, le deuxième Borisov a été découvert par un amateur de Crimée. C'est que le ciel, il n'y a pas de frontières. Tout le monde peut regarder. Et quand on a un événement, que ce soit quand un homme pose son pied sur la Lune ou quand un petit objet passe sur la sphère céleste, c'est une façon de s'unir tous ensemble. C'est l'humanité tout entière qui peut regarder ça et avoir une même émotion au même moment.
Oui,
une
alors,
émotion d'émerveillement.
Ça, quand Elon Musk ne nous envoie pas des grappes de satellites qui, quand même, posent des problèmes d'observation pour les astronomes. Hein.
Absolument. Et ça, c'est un problème. C'est qu'il faut pouvoir réguler, mieux réguler l'accès et puis l'utilisation de l'espace. Mais c'est en train d'être fait, notamment sous l'égide de l'ONU, au Comité d'utilisation pacifique de l'espace. Mais effectivement, on a ce problème-là. Mais quand on peut, en tous les cas, s'en affranchir, je trouve que c'est vraiment absolument génial qu'on puisse offrir au monde entier. Et donc, c'est pourquoi, comme cet objet va passer très près de la Terre, on s'attend à ce que la gravitation de la Terre et les forces de marée, hein, les mêmes qui font bouger nos océans, eh bien, à l'inverse, les forces de marée dues à la Terre fassent faire des mouvements de surface à cet astéroïde, voire le restructure sans poser absolument aucun risque. Et c'est pourquoi, avec l'Agence spatiale européenne, eh bien, nous travaillons sur une mission qui s'appelle Ramsès, qui devrait rendre visite à Apophis en 2029 pour pouvoir voir comment cet objet, un objet soumis aux forces naturelles dues à la Terre, et pourrait éventuellement modifier ses propriétés, avec en plus l'objectif de fournir au public en temps réel des images prises depuis l'astéroïde pendant qu'ils ont les yeux au ciel.
Donc quand, on imagine... quand vous dites on va rendre visite, on va se poser sur Apophis ou on va simplement le suivre de près ?
Eh bien, les deux. Parce qu'en fait, cette sonde, Ramsès, est équipée de deux CubeSats, hein, des mini-satellites qui sont à bord et qui vont être déployés à proximité. Et l'un d'entre eux, donc elle, la sonde elle-même va rester à proximité de l'astéroïde pendant plusieurs mois. Et l'un d'entre eux doit se poser sur la surface de l'astéroïde quelques jours avant la rencontre la plus proche de la Terre et sera muni d'un sismomètre français. C'est la première fois qu'on fait de la sismologie sur un astéroïde qui aurait pour but de mesurer comment l'astéroïde vibre quand il passe près de la Terre. Et ça, ça nous renseigne sur la structure interne de l'objet.
Et donc, alors, c'est 32 000 km de la Terre donc en 2029, c'est quand même très proche. Est-ce que ça représente un risque pour notre planète ou on peut dormir sur nos deux oreilles?
Alors, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles complètement parce qu'on connaît sa trajectoire précisément à quelques centaines de mètres près sur 32 000 km. Donc, c'est vraiment... Et surtout, je crains évidemment qu'il va y avoir plein de fausses nouvelles données à ce propos, mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucun risque, il faut au contraire se réjouir, comme quand on a un objet interstellaire, qu'on ait l'occasion, et qui se produit qu'une fois tous les 7000 ans pour un objet de cette taille-là, de pouvoir un objet qui passe si près, qu'on puisse mesurer comment il réagit à des forces naturelles. Vous savez, il faut savoir que tous ces objets-là, ils sont tellement petits qu'ils ont des comportements très différents de celui sur la Terre, du fait qu'ils ont peu d'attraction par rapport à la Terre. Et on se rend du compte avec les missions spatiales passées vers les astéroïdes que on a du mal à comprendre ce comportement. En particulier quand on fait subir une interaction, on a récolté des échantillons d'astéroïdes, on a même fait une émission là-dessus, on a dévié un astéroïde et à chaque fois, la réponse de l'objet n'a pas été celle attendue. Parce qu'elle est contre-intuitive, c'est compliqué. Cette fois-ci, pour la première fois dans le cas d'Apophis, on n'a même pas besoin d'interagir avec lui, c'est la nature qui offre les forces naturelles qui vont auxquelles il va être soumis et nous n'avons qu'à observer et à mesurer ce qui se passe, ce qui vaut vraiment pour nous de l'or, aussi bien scientifiquement que pour savoir comment se protéger de ces objets, même si celui-là ne comporte aucun risque.
Alors, Patrick Michel, Apophis, on a fait un petit pas de côté, hein, parce que c'est un astéroïde issu de notre système solaire, donc assez classique par rapport à Oumuamua, dont on parlait depuis le début de l'émission. Est-ce que justement, depuis la découverte d'Oumuamua en 2017, on a découvert d'autres objets qui pourraient appartenir à cette même famille d'intrus interstellaires?
Oui, absolument. Alors en 2019, hein, à peine deux ans après la découverte d'Oumuamua, donc Borisov, un criméen amateur, eh bien découvrait le 30 août 2019 un nouvel objet qui s'appelle donc Borisov pour le coup, mais cette fois-ci vraiment une comète, c'est-à-dire avec une activité, toutes les caractéristiques d'une comète. Et donc, on était réjouis de voir qu'enfin, on trouvait un objet qui cochait toutes les cases, j'allais dire, sans mystère. Et puis, on a eu, au mois de juillet cette année, le 1er juillet, un télescope au Chili. Alors, c'est pas le Vera Rubin, le grand télescope qui a été mis au point. C'est le télescope Atlas dédié à nouveau à la découverte des astéroïdes géocroiseurs qui fait à peine 50 cm de diamètre. Donc on n'a pas besoin d'un énorme télescope pour détecter ces objets, d'où l'excitation des amateurs. Eh bien, on a découvert le troisième objet interstellaire qui s'appelle le 3I Atlas, pour le coup, 3I et puis Atlas du nom du télescope, et qui est passé près du Soleil fin octobre, donc à sa distance minimale au Soleil, et qui est en train de repartir. Et
là, donc il est encore sous nos yeux.
Voilà, il est encore sous nos yeux. D'ailleurs, il va avoir la distance la plus faible à la Terre le 19 décembre, mais qui est très très grande. Hein. C'est à 270 millions de kilomètres de la Terre qui va passer. Oui. Donc en fait, la distance à la Terre est plus grande que celle au Soleil.
Et par rapport à Oumuamua, il a quoi comme caractéristique? Alors très rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions pour vous des auditeurs.
Alors par rapport à Oumuamua, ben justement, lui, il a une activité, c'est-à-dire qu'il dégaze, qu'il émet de la poussière. Alors qu'Oumuamua, justement, on avait ce problème d'expliquer sa trajectoire alors qu'on ne voyait pas d'activité. Et puis, il est peut-être plus grand encore qu'on a une incertitude sur la taille. Hein. Pour vous dire la difficulté, on pense que c'est entre 400 mètres et 5,6 kilomètres. Ah oui. On a une grande incertitude parce que c'est très difficile de les observer. Et j'insiste sur le fait que on a démontré à quel point on est organisé parce que c'est incroyable le nombre de missions spatiales européennes, américaines qui ont essayé, en particulier quand il est passé près de Mars, il est passé à 29 millions de kilomètres de Mars le 3 octobre dernier, et des missions martiennes, et y compris le rover Perseverance, a réussi à l'observer. Moi, je trouve ça absolument génial.
Allez, on passe aux questions. Et celle d'Emmanuel pour vous, Patrick Michel, qui demande pourquoi Oumuamua n'a pas percuté de planète au cours de son trajet ?
Ah ben ça c'est une très très bonne nouvelle que ça n'ait pas été le cas.
Oui.
Alors en fait il est arrivé si vous dessinez le système solaire sur une table, Oumuamua est arrivé de façon très inclinée, c'est-à-dire quasiment à la verticale. Donc du coup il a traversé le système solaire, il a simplement transpercé le plan du système solaire et donc il fallait que exactement à cet endroit-là il y ait une planète au moment où il a traversé le système solaire et donc la probabilité était extrêmement faible.
Marie demande comment éviter que le prochain objet venu d'un autre système ne disparaisse avant d'être étudié.
Ah oui, alors ça c'est évidemment la grande question et toutes les stratégies auxquelles on réfléchit pour justement éviter ça. Et l'une d'entre elles, alors soit c'est un coup de chance, sinon ce qu'on est en train de développer à l'Agence spatiale européenne, c'est la mission Comet Interceptor. Alors on verra si elle peut intercepter un objet interstellaire, mais l'idée qui est assez géniale, c'est de se dire que vu que ce genre d'objets, on les découvre très peu avant d'avoir la possibilité de les intercepter, et donc on n'a pas le temps de développer une mission spatiale et la lancer depuis la Terre. Pourquoi on développe pas la mission déjà? On l'envoie pas déjà dans l'espace, on la met sur une orbite parking,
oui.
Et puis comme ça, dès qu'elle voit un nouvel objet, hop, elle peut aller vers lui.
Oui.
C'est génial. Alors évidemment, l'idée la plus probable, c'est que on puisse voir une nouvelle comète de ce fameux nuage de Oort à 20 000 fois la distance Terre-Soleil, qui de temps en temps nous envoie un corps qui fait d'ailleurs ses comètes à longue période, pour voir à quoi ressemble une comète qui n'a jamais vu le Soleil. Parce que vous voyez à quel point, même pour nos comètes, on a des problèmes.
Ouais.
Parce que pour l'instant, toutes les comètes auxquelles on a rendu visite, elles ont fait déjà un, voire plusieurs passages autour du Soleil, donc elles sont pas fraîches, comme on va dire. Elles ont déjà été, voilà. Ce qu'on voudrait voir, c'est à quoi ressemble une comète fraîche qui n'a jamais vu le Soleil. Donc on met une sonde. D'ailleurs, c'est une coopération Agence spatiale européenne, Agence spatiale japonaise, tout se fait en coopération internationale. On met une sonde à la même, là où est à peu près le James Webb, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et puis, elle attend le premier objet qui arrive. Alors, si, par chance, on a un objet interstellaire qui a une trajectoire compatible avec ce que peut intercepter Comet Interceptor qui part en 2029, à ce moment-là, on pourra vraiment aller voir à proximité à quoi ressemble un tel objet, et ça serait génial.
Patrick Michel, dernière question, très vite, parce qu'il nous reste 30 secondes. Renan demande, est-ce qu'on peut imaginer une mission spatiale capable de rattraper Oumuamua? Il a lu que des équipes travaillaient en ce sens.
Oui, et dans le documentaire, d'ailleurs, une équipe propose effectivement cette possibilité en disant qu'on pourrait même la lancer dans quelques années et toujours rattraper Oumuamua.
Oui.
Alors ça reste quand même un grand défi.
Faudra aller vite, oui.
Voilà, faudra aller très vite. Puis après, il y a un souci de communication parce qu'au moment, il commence à être très loin et faudra pouvoir envoyer les données. Donc moi, je pense plutôt que, pour l'instant, on est limité à ce qu'on peut faire depuis la Terre, d'où l'importance d'en découvrir de plus en plus, notamment avec le verre à rubin, et de bien comprendre comment on peut extraire un maximum d'observations avec les télescopes terrestres. Et puis peut-être par chance, la mission Comet Interceptor nous offrira de belles images.
Merci beaucoup Patrick Michel. Ce soir donc sur France 5, Oumuamua, l'inconnu venu de l'espace. Et puis je signale un livre que vous avez publié il y a 2 ans chez Odile Jacob. Ça s'appelle À la rencontre des astéroïdes, les missions spatiales et la défense de la planète. Il est question entre autres d'Oumuamua, mais pas seulement. Merci beaucoup à vous Patrick Michel et merci aux équipes d'ICI Azur qui nous ont permis ce duplex. Merci beaucoup.